Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois. »
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Aujourd'hui, je vous propose un texte de Stieg Claesson, un auteur suédois né en 1928. Le titre en est « Conversation dans un express » et il a été traduit par Georges Huberschlag. Il s'agit d'une longue méditation sur un monde qui disparaît, celui des campagnes et des forêts suédoises, abandonné par les nouveaux citadins, attirés par la modernité des grandes villes. En voici le premier chapitre. Le jour où j'ai appris la mort de ma sœur, le soleil brillait. C'était par un très beau jour. C'était en plein milieu de l'été. Le ciel était clair et serein. C'était un jeudi, et le samedi suivant commençait le mois de juillet. En été, j'aime surtout le mois de juin, mais non pas juillet. Depuis que je suis adulte, je n'ai jamais aimé le mois de juillet. Je n'aime pas quand le ciel devient bas, comme il le fait d'habitude en juillet. Je n'aime pas quand la lumière du soleil filtre à travers des couches de nuages et que les contours ne sont pas bien nets. Je n'aime pas quand l'année bascule et que les jours commencent à diminuer. J'ai du mal à respirer en juillet. Naturellement, je n'ai pas plus de mal à respirer en juillet qu'en juin, mais j'en ai l'impression, justement en juillet. Ma sœur avait du mal à respirer pendant toute l'année, tout comme mon père jadis. C'est pourquoi elle était allée s'installer dans cette petite ville à proximité de la forêt. L'air de cette petite ville doit être plus pur que celui de la capitale. Mon père, qui était né dans la forêt et qui avait habité cette petite ville, le prétendait. Il prétendait qu'il lui suffisait de pouvoir quitter la capitale pour pouvoir respirer convenablement, comme tout le monde. Il ne réussit jamais à le prouver. Mon père est mort dans la capitale. Ma sœur, qui avait les bronches aussi fragiles que mon père, est allée s'installer dans la petite ville dont mon père avait parlé pour pouvoir mener une vie plus facile et vivre plus longtemps. Mais elle n'a pas vécu plus longtemps pour autant, ni plus facilement sans doute. Pour les gens qui ont des difficultés respiratoires, il me semble à moi que l'air lui-même n'a pas tellement d'importance, mais plutôt la façon dont on se sent, bien ou mal, dans l'air que l'on respire. Je crois avoir remarqué que lorsque mon père avait de l'argent, il respirait mieux que lorsqu'il n'en avait pas. Probablement qu'il en était de même pour ma sœur. Bien sûr, l'air lui-même a aussi une grande importance. Mais il y a bien d'autres choses qui entrent aussi en ligne de compte. Ne pas pouvoir respirer comme il faut, je le sais, c'est très pénible. Je me rappelle mon père et si j'avais hérité de sa maladie, je serais sans doute allé m'établir moi aussi dans cette petite ville dont il disait qu'on y respirait plus facilement. J'ai bien compris ma sœur lorsqu'elle y est partie et qu'elle y a trouvé du travail. J'ai compris qu'elle avait l'impression de pouvoir vivre à la fois plus longtemps et plus facilement. Sinon, cela aurait été difficile. Je veux dire que je n'aurais pas compris qu'elle quitte la capitale si elle avait pu y respirer convenablement. Donc, dans la petite ville aussi, ma sœur avait eu du mal à respirer, tant et si bien que, par le plus beau des jeudis, elle avait cessé de respirer. Elle avait cessé de respirer dans la nuit du mercredi au jeudi, et on me l'a annoncé lorsque le soleil était au zénith. Le ciel était clair et serein, et je respirais sans peine aucune. Je respirais sans peine aucune, mais c'était bien la seule chose que je faisais sans peine. Tout le reste me semblait pénible. Lorsqu'on me fit part de sa mort, c'était comme si j'avais justement attendu cette nouvelle-là. Mais je mis 2 jours avant de réaliser que ma sœur était vraiment morte, que ce n'était pas quelque chose qu'on avait inventé, simplement parce que mon état d'esprit se prêtait si bien depuis une semaine à ce genre de nouvelles. Ma sœur était morte. Je devais me rendre à son enterrement. Je devais prendre le train pour me rendre dans cette petite ville à proximité de la forêt. Un long voyage, probablement. J'aurais dû savoir, du reste, combien de temps le voyage allait durer, mais je ne le savais pas. Je ne m'en rappelais plus. Je ne me rappelais plus que ce trajet-là, je l'avais fait il y a bien des années, une génération, alors que l'été pesait lourdement sur la forêt et que j'étais encore un enfant. Le temps qui sépare un avis de décès d'un enterrement est bien long. On peut l'employer, ce temps, à s'acheter un costume sombre, à se couper les cheveux, à se laver les oreilles ou à cirer ses chaussures. Mais tout cela, on peut le faire en l'espace d'une heure. Et voilà justement pourquoi, en fin de compte, on ne le fait pas. Le temps, bien long, entre un avis de décès et un enterrement, on ne peut l'employer à rien du tout. Je ne me suis donc ni coupé les cheveux, ni acheté un nouveau costume. Une petite ville, c'est une petite ville. L'enterrement de ma sœur ne pouvait être autre chose qu'un petit enterrement. Ma famille est très petite. Peut-être que je n'aurais même pas à saluer qui que ce soit. Les éventuels amis de ma sœur ne savaient probablement pas qui j'étais. Un matin de bonne heure, à la fin de la première semaine de juillet, j'ai donc pris le train. Le train était rapide, plus rapide que je ne me l'étais imaginé. Je croyais du moins qu'il était rapide. Je n'avais plus pris le train depuis bien longtemps. Je ne prends jamais le train. Pas plus qu'un autre moyen de transport, d'ailleurs. Je n'utilise que quelques rares chaussées de la capitale pour cheminer à travers la vie. Le train était rapide, mais le voyage prit du temps. Devant la fenêtre du compartiment, la forêt défilait. Je me rappelais que dans ma jeunesse, j'avais rencontré un type qui avait été en Amérique et qui prétendait que les trains là-bas roulaient si vite que les journées défilaient devant la fenêtre comme si c'était de simples draps blancs. La forêt défilait. Mais la journée était interminable. Je me mis à penser à mon enfance. Je me mis à penser que j'avais dû faire justement ce trajet-là lorsque j'étais encore enfant. Que je me rendais alors dans cette petite ville en bordure de la forêt, bien lavée, les cheveux bien coupés et bien habillée, poursuivant ensuite mon chemin derrière un cheval à l'intérieur même de la forêt. Ma sœur et moi, nous avons fait ce trajet. Ma sœur avait 1 an de moins que moi. J'habite la capitale depuis plus d'une génération, depuis plus de 35 ans. Et beaucoup d'autres aussi. Nous sommes beaucoup à habiter la capitale depuis plus d'une génération. Durant ce temps, la capitale a changé, elle a grandi. Les petites villes de province ont grandi, elles aussi. Nous autres, nous avons grandi. Peut-être que nous ne grandissons plus tellement, mais la capitale et les petites villes de province le font encore. Là où il ne pousse pas de ville, dans nos provinces, il pousse de la forêt, la plupart du temps. Dans la forêt, il pousse des arbres. Rien d'autre ne pousse dans la forêt. Personne ne peut ni ne veut plus continuer à habiter la forêt. Mais, il y a bien des années, une population pauvre et laborieuse qui vivait de la terre et de l'artisanat habitait ce pays. Et ces gens habitaient dans nos forêts. Voilà à quoi je pensais, tandis que le train filait et que le temps restait suspendu. Je pensais que bien des années, ça signifiait une génération. Il y a bien des années, c'est un peu plus de 35 ans. Une époque où des gens pauvres et laborieux habitaient dans nos forêts. Du moins, y avait-il un pauvre petit vieux, un travailleur, qui habitait en pleine forêt, en plein milieu de ce pays. Il avait deux vaches, et il tressait des paniers. Il vivait donc de la terre et de son métier. Je pensais à ce vieillard qui s'appelait Sven Carlson. Il était vieux et il était seul. Il était petit et voûté, presque bossu. En été, le samedi, vers l'heure de midi, il mettait un bleu de travail frais lavé et allait fendre du bois. C'est ainsi que je me le rappelle, rasé de près dans un bleu bien lavé, fendant du bois à contre-jour. Son tas de bois se trouvait sur une butte, devant la maison. Ses vaches étaient attachées à des piquets non loin du tas de bois, le long d'un talus qui descendait vers une route et vers un lac. La route s'étirait, calme, dans la sombre forêt, comme un petit trait de craie de couleur ocre. Le petit lac était noir. L'herbe du talus, où les vaches étaient attachées, était d'un vert sombre. Celle qui n'avait pas été broutée. Les vaches broutaient dans des cercles jaunes. Elles étaient maigres, rouges et curieuses. Elles le regardaient fixement lorsqu'il fendait du bois. Moi aussi. Tout autour du tas de bois, il y avait des fraises sauvages. J'avais l'habitude d'y aller le samedi, en été, pour le regarder fendre du bois. Il était de ma famille, ce petit vieux. Cela date de si loin qu'il était tout à fait banal alors de voir de vieux compères tout voûtés, qui vivaient seuls, en train de fendre du bois devant leur chalet, sur une petite butte en pleine forêt, et d'être de la famille de l'un d'entre eux, sans savoir très bien comment. Moi et ma sœur, nous sommes partis pour la capitale il y a déjà une génération. La capitale n'était pas aussi grande que maintenant, mais elle était grande. Elle poussait déjà, à cette époque. Beaucoup d'entre nous, qui habitons la capitale, avions des parents qui vivaient dans la forêt, et les étés de notre première enfance, nous les passions chez quelqu'un de notre famille qui était resté au pays. On était parents avec un vieillard au dos voûté, qui habitait au fond d'une forêt. On était aussi parents avec des bonnes femmes. Une vieille bonne femme, vêtue de noir, que je ne me rappelle plus que recroquevillée sur un canapé, les mains sur les genoux, était parente avec nous, à ce que l'on disait. Elle s'appelait Sophie. Elle était petite, ridée, et elle avait des cheveux blancs et des habits noirs. Elle avait de très petites mains, pleines de taches de rousseur, posées l'une dans l'autre, et elle était assise sur un canapé à la couleur si affreuse que je me souviens d'elle rien qu'à cause de ça. D'une façon ou d'une autre, elle était de notre famille. Nous avions bien de la famille dans les forêts. Dans la capitale, à peine. Dans la petite ville en bordure de la forêt, nous étions apparentés avec un ferblantier qui avait les mains qui tremblaient, ou un ancien ferblantier. Je me les rappelle, lui et sa femme. J'étais assis dans le train, me rappelant. De temps à autre, je regardais par la fenêtre. Le soleil brillait, mais le ciel n'était pas sans nuages. Il faisait une chaleur étouffante. J'enlevais ma veste et la posais près de moi. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le train. Mais juste en face de moi, dans mon compartiment, il y avait une dame qui feuilletait un livre. Elle avait l'air un peu plus jeune que moi et, d'une certaine façon, elle me rappelait ma sœur. Soudain, je me mis à penser à ma mère. Je me souviens bien de ma mère. Que l'on se souvienne de sa propre mère, cela va de soi. Je me souviens bien sûr d'elle, mais cela ne va pas tellement de soi, car il faut que le souvenir remonte tellement en arrière. Jusqu'à ce peuple pauvre et laborieux qui habitait dans nos forêts. Pour s'en souvenir vraiment, il faut que quelqu'un meure. Je me souviens de ma mère, elle est morte. Nous autres de la capitale, qui avons passé les étés de notre première enfance dans la forêt, chez des parents pas comme les autres, nous nous en souvenons si l'occasion s'en présente. Mais seulement alors. Nous nous souvenons qu'il y avait des vieux au dos voûté et des petites vieilles aux cheveux blancs et que quelqu'un nous a dit qu'ils étaient de notre famille. Il y a déjà une génération, Sven Carlson a fendu du bois tous les samedis, en été. J'étais petit. Sven Carlson était vieux et voûté. Il portait un bleu de travail frais lavé. Moi, je portais des habits rayés avec des motifs de myrtille et des rêles. J'avais des cheveux d'or pâle et les fraises des bois mûrissaient juste sous mes genoux. Comme je vois mal de mon œil gauche depuis toujours, je peux assez bien m'imaginer qu'en regardant Sven Carlson à contre-jour, j'ai fermé l'œil gauche, comme je le fais encore aujourd'hui lorsqu'il y a beaucoup de soleil. Et c'est d'un œil seulement, la tête un peu penchée de côté, que j'ai dû l'observer. Je l'ai regardé avec un œil bleu clair sous une tignasse d'or pâle, et j'étais pieds nus. Comme on portait alors des culottes courtes, je m'imagine que mes jambes étaient couvertes de piqûres de moustiques et que le sang coulait d'un bouton que je venais de gratter. Quand nous étions petits, jadis, nous nous grattions toujours les jambes, partout. Lorsqu'on allait cueillir, par exemple, des groseilles à maquereaux pas encore mûres, on se mettait toujours au milieu du buisson tout couvert de piquants, peut-être pour ne pas être vu. Les enfants n'agissent plus ainsi de nos jours, parce que cela n'a plus aucune espèce d'importance de se faire attraper. Peut-être qu'à cette époque cela n'avait pas d'importance non plus. Mais les grands-mères ont l'habitude de dire que, quand elles étaient petites, il ne fallait pas qu'elles se fassent attraper. C'est peut-être vrai, mais uniquement dans le cas des grands-mères qui croient encore se rappeler, mais qui ne se rappellent pas du tout ce peuple pauvre et laborieux qui habitait dans nos forêts, et auquel je pense, moi. Car celles qui parlent encore n'appartiennent pas à ce peuple. Les grands-mères ne sont plus, depuis longtemps. Ma mère n'est plus. Elle est morte. Ma sœur aussi vient de mourir. Je regardais la dame assise en face de moi dans le compartiment. Elle était blonde et pas tellement grande. Peut-être que ma sœur avait cette allure-là. Je ne savais pas comment elle était au moment de sa mort. La dernière fois que j'ai vu ma sœur, c'était à l'enterrement de mon père. Il y a bien 15 ans déjà. Ma sœur était blonde et pas tellement grande. J'aurais bien voulu parler avec la dame dans le compartiment du train. Je pensais. Il y a 35 ans, un peuple pauvre et laborieux dont personne ne se souvient plus habitait ce pays. Peut-être que ce n'est pas tout à fait ainsi. Nous nous en souvenons un peu à l'occasion, mais rarement. Le souvenir a blanchi au soleil. Beaucoup d'entre nous ont des souvenirs blanchis au soleil. Nos étés d'enfance sont si loin déjà. J'ai grandi dans la capitale. Il y a un été dont je me rappelle. Un vieillard fendait du bois à contre-jour, en plein milieu d'une forêt, tout juste en dessous du cercle polaire, tellement notre pays s'étend vers le nord. Notre pays. Il y a de nombreuses années, un peuple pauvre et laborieux habitait ce pays. Ce peuple vivait de la culture de la terre et de son artisanat. Ils habitaient dans nos forêts, ceux qui faisaient partie de ce peuple. Beaucoup d'entre eux étaient de notre famille. Nous nous souvenons d'eux. J'ai dit tout à l'heure que les grands-mères qui croient encore s'en rappeler ne se rappellent plus de rien. Elles parlent. Mais je ne veux pas dire qu'elles ne se rappellent vraiment pas ou qu'elles se rappellent mal. Simplement, leurs souvenirs habitent dans un autre pays, pas dans le mien. Dans le pays où je vis, ma mère est morte. Depuis longtemps. Elle partie, je n'ai personne à qui demander quels étaient mes liens de parenté avec la vieille Sophie ou avec Sven Carlson. Cela ne m'a d'ailleurs jamais vraiment intéressé. Pendant que j'ai grandi dans la capitale aussi a grandi, et elle continue toujours de le faire. Comment cela s'est fait, et comment cela se fait encore, et quelles en ont été les causes et les effets dans notre pays? On en a parlé autour de moi, et parfois, cela m'a intéressé. Quant à savoir comment grandissent les petites villes, ça ne m'intéresse pas. Savoir comment la forêt grandit et évolue, Voilà qui est intéressant. Dans la forêt poussent des arbres, rien d'autre. Il est intéressant de savoir qu'il y a bien longtemps, un peuple pauvre et laborieux habitait dans la forêt, et qu'on était de la même famille que ce peuple. On n'a jamais cherché à connaître les liens de parenté, ni même pensé pouvoir le faire. Conversait en silence avec la dame qui ressemblait à ma sœur. « Nos parents sont morts, dis-je. Celui dont les deux parents sont morts possède aussi deux grands-parents paternels et deux grands-parents maternels, également morts, ainsi que de la parenté qui a vécu jadis. Et jadis, c'est une forêt épaisse, rien d'autre. Rien d'autre ne reste de notre peuple pauvre et laborieux. Il reste un peuple, mais ce n'est pas le mien. La forêt n'est plus que de la forêt. Mais moi, qui étais un enfant, voilà une génération, je vivais dans ce pays où les gens étaient pauvres et laborieux, et seuls. J'étais de la même famille que ceux qui fendaient du bois. J'allais les retrouver en été. Nous allions les retrouver en été. Je regardais celle qui ressemblait à ma sœur. Elle levait les yeux de son livre. « Quand j'étais enfant, j'ai souvent fait ce trajet, » dis-je à haute voix. « Ah bon ? » dit la dame. « On avait alors de la famille dans la forêt, » dis-je. « Ah bon ? » dit la dame. Et je voyais maintenant qu'elle avait probablement 10 ans de moins que moi, et qu'elle ne ressemblait peut-être pas du tout à ma sœur. « Je me rappelle d'un vieux qui s'appelait Carlson, » dis-je. Nous étions un peu de la même famille, c'est ce que l'on disait. Je me souviens que l'on disait que Carlson était un vieux sauvage. Ceux qui disaient cela, c'étaient d'autres vieux sauvages qui habitaient à quelques centaines de mètres de chez Carlson, encore plus loin dans la forêt, là où j'habitais moi aussi. C'était comme ça, j'habitais encore plus loin dans la forêt, chez un vieux et une vieille qui étaient de ma famille. Et le samedi, en été, lorsque le soleil brillait, que je me tenais sur le petit remblai de la cave de la maison dans laquelle j'habitais, entendant Carlson qui commençait à fendre du bois, je prenais le chemin à travers la forêt jusqu'à sa maison, simplement pour avoir quelque chose à faire, peut-être aussi pour cueillir des fraises des bois. Lorsque le vieux fendait du bois, cela chassait tous les serpents qui nichaient peut-être là et se chauffaient au soleil. Le vieux et la vieille chez qui j'habitais avaient 3 vaches. Ils étaient frères et sœurs et s'appelaient Anderson, Knut et Olga. Une des vaches s'appelait Fleurette. C'est chez eux que j'ai passé mes étés lorsque j'étais enfant, chez Knut et Olga, et chez Fleurette et les 2 autres vaches. Il y avait aussi quelques poules, mais pas de coqs. « Ah bon, il n'avait pas de coq, » dit la dame. « Non, » dis-je, « mais ils avaient un cochon. Du moins, je me souviens d'un cochon qu'on devait tuer. Plus exactement, je me souviens du boucher lorsqu'il est venu. C'était un vieux type acariâtre, aux mains osseuses, qui habitait également dans la forêt. Il y habitait avec sa femme. Peut-être qu'il était également de ma famille. » Il s'appelait Franz. Il avait des pieds énormes et des chaussures qui l'étaient encore plus. Lorsqu'il posait ses bottes sur l'escalier de la cuisine, on était obligé, nous autres, d'emprunter la belle porte. C'est ainsi dans la forêt. Tous ceux qui y habitaient avaient une entrée par la cuisine et une autre qui était la belle porte. Celle-ci, on ne l'utilisait presque jamais. Certains de ceux dont je me souviens encore se servaient de la belle porte. Un qui s'appelait Georges, par exemple. Lorsqu'il venait parfois en visite le dimanche, on le faisait entrer par la belle porte. La dame posa son livre et je lui offris une cigarette. Si on y est obligé, on se souvient encore pas mal, dis-je, de ce peuple éteint depuis si longtemps. Dans mon enfance, il y avait plein de gens dans nos forêts. La dame fumait, mais ne disait rien. Souvent, je me suis demandé, dis-je, où sont passés tous ces gens dont je me souviens, à leur mort, et que sont devenus leurs maisons et leurs lopins de terre? Ils n'avaient jamais d'enfants. Je ne me les rappelle pas ayant des enfants. Je me souviens d'un parterre de fraises, d'un petit chalet rouge. Je me souviens avoir grimpé dans une cuisine, un jour d'été, il y a bien longtemps, il y a une génération déjà, il y a 35 ans. Si on habitait comme moi dans la capitale, le voyage jusqu'au chalet de la forêt était très long. Dans mon enfance, je quittais toujours la capitale en été, et l'été se trouvait très loin, dans une forêt. Bien lavé, les cheveux coupés, c'est ainsi qu'on voyageait. Dans de beaux habits. Cela me fit penser que c'est ainsi que j'aurais dû voyager également. Les cheveux bien coupés, j'aurais dû porter un costume sombre et avoir des chaussures bien cirées. Mais pourquoi, après tout? Sans doute que je ne connaîtrais personne à l'enterrement, et personne n'allait me reconnaître. Je vais à un enterrement, dis-je. Je vais à un enterrement dans cette petite ville en bordure de la forêt. « Une personne âgée de votre famille est-elle morte ?» demanda la dame. « Ma parenté est morte depuis longtemps, dis-je. C'est ma sœur qui est morte. Elle s'était installée dans cette petite ville parce qu'elle croyait qu'elle y respirerait mieux que dans la capitale. Elle avait du mal à respirer. Mon père lui a fait croire que l'air de cette petite ville était pur et sain, facile à respirer. Elle s'y est donc installée. Mais probablement qu'elle n'avait pas assez d'argent. Mon père ne pouvait presque pas respirer du tout lorsqu'il manquait de sous. L'air n'a pas une aussi grande importance que l'on croit. Beaucoup d'autres choses jouent également, pas seulement l'argent. Mais en juillet, dis-je, là je veux bien admettre qu'il est pénible de respirer. Je n'ai jamais aimé le mois de juillet. Je ne l'aime pas non plus, dit la dame. C'est un mois auquel on ne peut pas se fier, dis-je. Il y a toujours des orages, ou alors il faut de toute urgence se rendre à un enterrement. Tout le monde est en vacances, dit la dame. Oui, dis-je, presque tout le monde est en vacances. Moi aussi je suis en vacances, mais je n'avais pas eu l'intention d'aller quelque part. Ce voyage-ci, je suis obligé de le faire. Je ne l'ai plus fait depuis mon enfance, voilà bien une génération. Lorsque le train s'est mis en route, j'ai commencé à penser à mon enfance. Comment on se rendait alors dans la forêt, car l'été se trouvait là, au fond des forêts. Le samedi, en été, quand le soleil brillait, le vieux Sven Carlsson fendait du bois, au milieu de la forêt. Je m'en souviens. C'est à peu près tout ce dont je me souviens. Mes souvenirs habitent probablement dans un autre pays. Je me souviens de ma mère. Elle est morte. Mais c'était il y a bien longtemps. Ma sœur vient de mourir fin juin. Un mois de juin, ça semble assez injuste. Elle était jeune, à peu près votre âge. Vous lui ressemblez effectivement un peu, comme je me l'imagine avant qu'elle ne meure. Mais vous, vous avez l'air en bonne santé, ce qui n'était peut-être pas le cas de ma sœur. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 15 ans, environ. Mais quand nous étions enfants, nous allions passer l'été chez des parents ensemble. Nous allions d'abord jusqu'à cette petite ville et ensuite derrière une voiture à cheval. Un cheval gris. Il s'appelait Hugo, le propriétaire du cheval. Le nom du cheval, je ne m'en rappelle plus. À vrai dire, je ne cherche pas à me rappeler quoi que ce soit, mais ce train me ramène vers mon enfance. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais voulu aller dire bonjour à ma sœur. Quelque part, au fond de moi, je sens que j'ai une dette envers les vieux et les vieilles qui habitaient seuls et misérables dans la forêt. Ils ne sont plus en vie, et je ne sais même pas comment ils sont partis. Mais ils étaient une part de notre éducation, je crois. Et s'ils étaient vraiment une part de notre éducation, nous avons été élevés afin de vivre dans un autre pays que celui qui est le nôtre actuellement. Aujourd'hui, il n'y a plus de vieux grand-père vivant en plein milieu d'une forêt qui considère encore que cela vaille la peine de changer son bleu de travail lorsque les cloches annoncent la fin de la semaine. Nous sommes en train de devenir un peuple nouveau, sans tradition. Sans tradition, nous ne pouvons pas changer. Pourtant, ce sont les changements qui sont à l'ordre du jour, même de grands changements. Mais je ne peux pas comprendre comment on peut aimer son pays si on oublie qu'on a passé les étés de son enfance parmi un peuple pauvre et laborieux qui habitait dans nos forêts. Un peuple auquel on n'a plus consacré depuis une seule pensée. Moi, en tout cas, n'ai plus pensé à lui. Et si je dois contribuer à faire changer mon pays, c'est pour que ceux que j'aime puissent continuer à y habiter plus tard. Des gens qui ne nous aiment pas sont en train de changer ce pays. Des gens qui n'ont jamais été de la famille de ceux qui ont fendu du bois.
Le développement a été rapide, dit la dame.
Non, c'est justement ce qu'il n'a pas été, dis-je.
Vous parlez donc pour le plaisir de parler, dit la dame.
Oui, dis-je. Je ne demande pas mieux que de parler avec vous. Le train file à toute allure, mais le temps ne file pas tellement vite. Je n'ai rien qui presse. Mais j'aimerais quand même que cet enterrement soit passé. Je ne vais reconnaître personne, et personne ne me reconnaîtra. Je serai là, le visage tout rouge, en plein soleil, ne sachant que faire. Mon beau-frère viendra, évidemment, mais je ne l'ai jamais vu.
Soudain, l'idée me vint que j'avais un beau-frère. Je n'y avais pas pensé auparavant. Lui, je devais sûrement le saluer, et lui aussi devait me saluer. Je savais que mon beau-frère s'appelait Anderson. Moi aussi, je m'appelle Anderson.
Je m'appelle Anderson, dis-je à la dame. Mon beau-frère aussi s'appelle Anderson. Je ne connais pas son prénom. Ma sœur s'appelait Ingrid.
Ah bon, dit la dame.
Mon beau-frère a probablement un prénom un peu bizarre, dis-je.
Karl, quelque chose de ce goût-là?
Il est vendeur. Il vend des moquettes. L'année dernière, quand j'ai téléphoné à ma sœur, elle m'a dit qu'elle avait commencé à vendre des moquettes. Avant, il vendait autre chose. Il avait ramené des échantillons de moquettes à la maison, et cela avait provoqué des allergies respiratoires chez ma sœur. Je ne l'avais pas cru alors, mais plus tard, j'ai lu dans un journal qu'il est déconseillé d'avoir des moquettes si on a des difficultés respiratoires. Il va bien falloir que je dise bonjour à ce filou de camelot. C'est lui qui a téléphoné pour dire que ma sœur était morte. Mais il n'a pas dit comment il s'appelait. Il s'est présenté comme le mari d'Ingrid.
« C'est le mari d'Ingrid, » avait-il dit.
« Si on a du mal à respirer, il ne faut pas avoir de moquette. Mais il faut avoir de l'argent. Lorsque mon père avait des sous, il ne se plaignait pas de ses bronches. Lorsque le boulot n'allait pas, il avait du mal à respirer. »
mais il n'a jamais dit qu'il n'avait pas assez d'argent. Il pestait après les putiers qui fleurissaient, les lilas qui se fanaient, les châtaignes qui tombaient, ou les sapins de Noël que l'on vendait. Et la sœur pestait après les moquettes. Pour ma part, je pense que ce n'est pas bien difficile de respirer. C'est tout le reste qui est difficile. Je suis un simple dessinateur, dis-je. Toute ma vie, j'ai été l'esclave de mon crayon. C'était pas mal, mais ces dernières années, il n'y avait plus tellement de travail. Il n'est pas sûr que je puisse retourner au bureau après les vacances. Ces derniers temps m'ont laissé un goût amer dans la bouche. Comme si je me rongeais les ongles, ce que je ne fais pas du reste. Vous devriez vous couper les ongles, dit la dame. Je le sais, dis-je, je devrais aussi me couper les cheveux. Si vous vous donnez un coup de peigne, vous n'avez pas besoin de vous couper les cheveux, dit la dame. Mais les ongles, oui. Je vis tout seul, dis-je, je peux seulement me couper les ongles de la main gauche. J'ai un coupe-ongles, dit-elle, je vais vous couper les ongles. Ceux de la main gauche, je peux les couper moi-même, dis-je. C'est seulement pour la main droite que j'ai besoin d'aide. Après que la dame m'eut coupé les ongles de la main droite, elle me donna les ciseaux pour que je me coupe ceux de la main gauche. Puis, je lui rendis les ciseaux. « Ah bon, vous croyez qu'il suffit que je me donne un coup de peigne ? » dis-je. « Ça suffit, dit la dame. »« Et le costume ? » dis-je. « Vous ne pouvez plus guère vous en procurer un pour l'enterrement, dit la dame. » Mais vous n'en aviez peut-être pas l'intention non plus. J'en avais eu l'intention, dis-je. Ça ne sera qu'un petit enterrement. Mais vous avez peut-être raison, il faut que je loue un costume sombre. J'y arriverai encore. Mes chaussures aussi, il faut que je les cire. On doit être comme il faut pour un enterrement, même pour un petit. Faites-vous partie des porteurs ? Demanda la dame. Pour porter quoi ? Dis-je. « Le cercueil, dit la dame. Pourquoi faut-il le porter ? Dis-je. Je suis originaire de cette petite ville, dit la dame. Je vais rendre visite à mes parents. Il n'y a pas de crématorium. Il y a une petite chapelle au cimetière, et de là on porte le cercueil jusqu'à la tombe. Je songeais. Mon cœur se mit à battre très vite. Je ne porterai pas un mètre, dis-je. Mon beau-frère n'a qu'à embaucher des porteurs. N'est-ce pas assez de porter le deuil ? Faut-il encore porter autre chose ? Combien sont-ils à porter ?
6, dit la dame.
Alors le beau-frère n'a qu'à téléphoner à n'importe quelle équipe de football et louer 6 hommes, dis-je. Je ne porterai pas.
Doit-on également chanter ? Demandai-je.
On chante près de la tombe, dit la dame. « Chanter en pleine nature, dis-je. »«
Oui, dit la dame.
Cela ne durera peut-être pas trop longtemps, dis-je. »«
Non, jamais, dit la dame. »«
Ah bon ? Vous venez de cette petite ville, dis-je, et vous savez comment se passent les enterrements ?»«
Oui, dit-elle. »«
Vous rentrez seulement pour les vacances ?»«
Oui, dit-elle. »«
Vous travaillez donc dans la capitale, dis-je. »
« J'ai un petit salon de coiffure pour dame, dit-elle. » Je la regardais, et je voyais qu'elle ne pouvait guère avoir plus de 30 ans. Elle était bien coiffée, elle avait les yeux bleus, les joues un peu arrondies. Elle avait une belle bouche, pas de maquillage, mais les sourcils étaient soignés, et elle avait mis un peu de bleu autour des yeux.
« Que font vos parents dans cette petite ville ? » dis-je.
« Mon père fait semblant de travailler sur un chantier, dit la dame. » Elle sourit. Il est possible que mon père aide à porter votre sœur, dit-elle. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de porteurs, les gars du chantier ont l'habitude de donner un coup de main. L'idée de devoir me rendre à un enterrement dans un cimetière où il fallait porter et chanter me rendait nerveux.
Tout est si difficile, dis-je. Il y a bien longtemps que je n'ai plus pris le train et, quand je suis monté dans celui-ci, je me suis mis à penser qu'il y a une génération, des gens pauvres et laborieux habitaient ce pays, en plein milieu de nos forêts, vivant de la culture de la terre et de leur artisanat. Dans la forêt, il ne pousse plus désormais que de la forêt, des arbres. Les gens qui habitaient dans nos forêts sont presque entièrement oubliés, et c'est moi qui les ai oubliés. Mais la façon dont aujourd'hui les livres, le théâtre ou la télévision les présentent ne me plaît pas du tout. On décrit ces pauvres gens comme étant pauvres, ces gens laborieux comme étant laborieux, et jusque-là il n'y a rien à dire, mais seulement jusque-là. On semble avoir du mal à décrire aussi les joies de ces gens, mais ils devaient bien trouver leur joie de vivre quelque part. Lorsque nous pensons à eux, nous les voyons avec leur joie, les leurs. Où les ont-ils trouvés? Lorsqu'on décrit de nos jours des ouvriers, ceux qui pointent à l'usine, comme on dit, on les décrit comme s'ils ne trouvaient aucun plaisir nulle part. Il y a au moins une chose dont ils devraient être contents, c'est d'avoir du travail. Une usine ou pointer. Eux aussi doivent pouvoir trouver une certaine joie dans leur lutte pour le pain quotidien, dans leur lutte pour avoir une meilleure usine et une meilleure tartine à beurrer. On dirait que tout cela est triste à en donner le frisson. Puisque ces gens veulent améliorer leur propre vie, il faut qu'ils aiment aussi ceux qui viennent après eux et qui doivent connaître un monde meilleur. Il faut qu'ils s'aiment eux-mêmes. Mais on est en train de les oublier justement maintenant. Ceux qui viendront après eux ne s'en souviendront plus. Voilà que vous vous mettez encore à palabrer, dit la dame. Croyez-vous que je pense trop à moi-même? Dis-je. Je ne le sais pas, dit-elle. C'est comme pour un capitaine qui indique la position de son navire, dis-je. Vous ne voulez pas parler de l'enterrement, dit-elle. Non, je ne le veux pas, dis-je. Nous restâmes assis, en silence. J'espérais que la dame allait se replonger dans son livre, mais elle ne le fit pas. Elle continuait à me regarder, et je remis ma veste. « Je m'appelle Anderson, moi aussi, dit-elle soudain. « Gerd Anderson. Moi, je m'appelle Olle, dis-je. Voulez-vous qu'on aille au wagon-restaurant ? » La méditation se poursuit avec de nouveaux personnages, entre pitié et mépris pour ce peuple pauvre et laborieux, le tout teinté de culpabilité vis-à-vis de ces gens qu'on a oubliés. Pour connaître la suite, il vous faudra trouver le livre, paru aux éditions de L'Élan en 1995. La lecture a été faite par Yvan, qui a aussi assuré la technique. Les pauses musicales sont extraites de Calabrian Nights, des quartettes Palatino.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez